Là, nous reprenons après ces quelques minutes de pause. Donc, avant de passer à la planche d'après, un dernier point quand même qui me semble important, c'est que Paul dit bien, si avec ta bouche tu reconnais publiquement Jésus le Seigneur, dans un chapitre qui traite essentiellement du salut, nous aurions pu nous attendre à ce qu'il dise, si tu reconnais publiquement Jésus, le Sauveur. Mais non, il dit bien le Seigneur. Et cela me permet d'insister sur un point, c'est que si nous acceptons Jésus comme sauveur, nous l'acceptons nécessairement aussi comme Seigneur. Je ne crois pas au fait qu'il y ait deux étapes, qu'on accepte d'abord Jésus comme sauveur et puis, au bout d'un certain temps, finalement, on le reconnaît comme Seigneur de sa vie. Alors, il est vrai que nous avons besoin que la Seigneurie de Christ progresse dans notre vie constamment, hein, mais dès la conversion, celui qui se tourne vers Jésus en acceptant son salut le reconnaît à la fois comme sauveur et seigneur. C'est un package. C'est bien ce que Pierre dit dans ses deux épîtres quand il accole ces deux titres, notre seigneur et sauveur Jésus-Christ. Venons-en maintenant à la dernière partie de notre chapitre, le salut proclamé mais refusé par Israël. Donc cette bonne nouvelle du salut a été proclamée. Et Paul, encore une fois, va s'appuyer sur une citation. Et pour indiquer qu'il a bien le salut a bien été proclamé, il va prendre à l'envers la chaîne du salut. Donc, on est sauvé par la foi, mais pour être sauvé, il faut avoir invoqué le nom du Seigneur, s'être reconnu pécheur. Mais pour cela, il faut avoir cru en Jésus-Christ. Mais pour cela, il faut avoir entendu parler de Jésus. Mais pour cela, il faut que la bonne nouvelle ait été proclamée. Pour cela, il faut qu'un messager ait été envoyé. Et on voit, c'est cette flèche rouge que j'ai mise, eh bien, que dans les versets 14 et 15, Paul rétropédale puisqu'il part de invoquer pour aboutir à comment envoyer. L'ordre logique étant bien entendu dans celui-là. On pourrait faire beaucoup de remarques là-dessus. On remarque que Paul, dans la citation qu'il fait d'Ésaïe 52, passe du singulier au pluriel. C'est intéressant, parce que ça montre que la mission des chrétiens, c'est de continuer en fait la mission du Christ. Celui dont les pieds sont beaux, c'est d'abord et avant tout celui qui nous a apporté le salut de la part, la bonne nouvelle de la part de Dieu, l'Évangile, mais désormais, ce sont ceux qui poursuivent la mission initiale de Christ sur la terre qui ont ces beaux pieds dans leur mission. Ce texte aussi, surtout si on prend le il comme étant en premier lieu les Juifs que Paul avait tellement à cœur, nous montre la nécessité de la mission vers les Juifs. C'est qui est un sujet un peu délicat depuis la Shoah. Et on sait que même parmi les chrétiens, certains disent qu'on ne devrait pas évangéliser les juifs puisqu'ils ont déjà les Écritures. Sauf que, il n'y a pas d'autre moyen de salut pour les juifs que pour les autres. Donc, il y a bien cette nécessité de la mission vers les juifs. Mais cette mission vers les juifs ne saurait être exclusive, bien entendu, puisque s'il y a une priorité chronologique de la mission vers les juifs, il n'y a pas de priorité ni qualitative ni quantitative. Ce serait une mauvaise anthropologie que de penser qu'une âme juive a plus de prix pour Dieu qu'une âme d'un papou ou d'un Bolivien, que sais-je. Donc, ça nous montre à quel point parfois le soutien de certains évangéliques absolus à Israël je dirais, l'allocation démesurée parfois de moyens. Sur cet aspect-là, n'est pas forcément en phase avec ce que dit Paul, puisque dans le même chapitre 52, juste après, il est dit, toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. On peut bien penser aussi que ces interrogations, le fait que Paul tourne et puis rétropédale sur la chaîne du salut, c'est aussi un moyen discret pour lui et subtil de faire un appel du pied implicite aux chrétiens de Rome pour l'Espagne. Je rappelle ce deuxième but de la lettre aux Romains comme lettre de réveil. Peut-être un point rapide sur le verbe proclamer. Le proclamer, c'est comme le ferait un héros pour une annonce publique dans les rues. Donc derrière proclamer, il y a cette idée de s'adresser aux gens là où ils sont. J'appelle de la sagesse de Proverbe 8. Et vous remarquerez également que dans la chaîne, Paul change puisqu'il n'y a personne pour proclamer. Là, il passe du pluriel au singulier, personne pour proclamer. Donc ça veut dire qu'en fait, la proclamation n'est pas le fait des seuls spécialistes. Il n'a pas dit s'il n'y a pas un apôtre pour proclamer ou un missionnaire dûment envoyé par une église. Non, non. Cette proclamation est assez universelle. Et donc, c'est important que chacun de nous sentions concernés par cela. Qu'est-ce qu'on proclame? On proclame celui dont on veut que les gens entendent parler. Donc la proclamation, elle est sur Jésus. Et d'abord et avant tout. Et donc ça aussi, c'est un point important parce que on peut parler de son témoignage, mais l'essence même de notre témoignage à nous, c'est la centralité de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ, d'abord et avant tout. Ensuite, dans les versets suivants, Paul indique qu'Israël a désobéi à cette bonne nouvelle de la parole du Christ. Et il va s'appuyer sur la citation d'Ésaïe 53, verset 1, dont le contexte est bien entendu le refus par les Juifs du scandale du Messie souffrant et crucifié. Il voulait bien d'un Messie glorieux, fils de David, mais le Messie crucifié, non, merci. Le verset 17, sur lequel nous avons déjà dit un petit mot pour la leçon textuelle, me semble-t-il, est un verset particulièrement important aussi. Particulièrement important, parce que Paul fait une généralisation. La foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend par la parole du Christ. Donc la foi ne vient pas par la vue. Ça, c'est ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux développera, hein. La foi, c'est l'espérance, c'est des choses qu'on n'a pas vues. La foi ne vient pas des miracles. Et ça, Jésus lui-même, erreur de citation, c'est Luc 16, 31. La foi ne vient pas des miracles, puisque dans la parabole, la pseudo-parabole du riche et de Lazare, Abraham dit, mais ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent, parce que si, même si quelqu'un revenait d'entre les morts, il ne le croirait pas. La foi vient de la parole, d'où l'importance capitale de diffuser la parole. Par tous les moyens, par l'écrit, par Internet, par la télé, par la radio, par les enregistrements d'audio-vie, par tous les moyens disponibles, c'est cette parole du Christ. Et donc c'est vrai qu'aussi ça nous encourage à diffuser en particulier le Nouveau Testament, puisque c'est lui qui proclame la parole du Christ. Tout le bien et tous les milliers, je ne sais pas combien, peut-être on pourrait presque parler de millions de conversions que le petit bleu des Gédéons, donc ce Nouveau Testament et Psaume, ont pu produire, c'est vraiment exactement dans cette ligne de cette foi qui vient de ce qu'on entend, la parole du Christ. Donc cette parole qui se doit d'être proclamée. Alors, si Israël n'a pas cru, c'est pas qu'il n'a pas entendu. D'où la première allusion, j'en ai déjà touché un mot, Paul dit non, non. La parole a été entendue partout. Et pourtant, Christ, Israël a compris le salut accepté par d'autres. Et donc là, nous avons trois citations qui font rejeter la seconde objection. Alors la première citation est intéressante parce que c'est le premier, Moïse dit, je vous rendrai jaloux par ce qui n'est pas une nation. Cette jalousie, Paul va reprendre ce terme au chapitre 11 au verset 14 pour en faire l'amorce de son raisonnement des relations entre juifs et non-juifs dans la période actuelle et de tout son développement sur l'olivier. Mais c'est intéressant aussi de voir que quand Moïse dit-il cela? Ben Moïse dit cela dans Deutéronome 32. On a eu Deutéronome 30 juste avant. Là, on avance un tout petit peu. Dans Deutéronome 32, c'est le cantique de Moïse. Et franchement, c'est pas le cantique le plus joyeux de toute la Bible. Au contraire, c'est un cantique reproche-avertissement qui annonce très clairement que finalement, eh bien, Israël, à qui Dieu avait fait ce cadeau magnifique de la loi, eh bien, n'allait pas l'écouter. Moïse, comme testament, laisse ce cantique en étant sans aucune illusion sur le fait que Israël refuserait ce salut. Et dans les deuxième et troisième citations, moi, ce qui me touche toujours beaucoup, c'est ce contraste entre première citation d'Ésaïe 65, puis la deuxième, hein, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas, et Dieu qui dit, j'ai tendu les mains vers un peuple désobéissant et contestataire. C'est comme si Dieu avait dit, eh ben finalement, il y en a qui ont cherché, cherché, et puis m'ont trouvé. Et puis moi, j'étais là constamment à tendre les mains vers un peuple qui avait juste qu'à les saisir, et puis finalement, ils ne l'ont pas saisi. Et donc, on voit ce drame, quelque part, qui est celui de ces trois chapitres, que Israël a refusé ce qui était à sa portée immédiate, alors même que des non-juifs plus éloignés, a priori, de la foi et de la révélation divine, ont accepté ce salut qui a été proclamé. Nous arrivons là à la fin de notre quatrième partie, donc l'interprétation dans laquelle j'ai essayé de donner quelque peu le sens de ces chapitres 9 et 10, et j'en viens à une généralisation sur deux thèmes importants qui sont touchés bien ailleurs dans la lettre, mais qui ressortent particulièrement dans ces deux chapitres, me semble-t-il, la loi pour le croyant, avec en particulier notre verset 4, et puis la souveraineté divine et responsabilité humaine. Alors, je suis bien conscient que je m'attaque à deux Himalayas, que nous allons gravir au pas de course en 10 minutes en ne donnant que les conclusions, que cela ressortirait pour chacun d'entre eux d'un exposé assez long. Mais il me semblait important néanmoins de vous donner quelques éléments de conclusion, hein, si je puis dire, sans pouvoir argumenter et faire l'étude détaillée des versets sous-jacents, sur ces deux thèmes-là, pour essayer peut-être de donner une vision un peu d'ensemble de ces deux points très importants. Alors tout d'abord, la loi pour le croyant. Faut remarquer que ce thème de la loi, c'est un thème majeur de l'épître aux Romains, puisque sur les 138 occurrences du mot loi et les mots apparentés, hein, dans les épîtres de Paul, nous en trouvons 80 dans la seule lettre aux Romains, 32 dans l'épître aux Galates aussi, donc une proportion très importante. Mais la difficulté vient entre autres de ce que le mot loi a plusieurs sens, et cette polysémie n'est pas forcément évidente à saisir. D'abord, c'est le principe naturel généralement vérifié par l'expérience qui énonce une corrélation entre deux éléments, la loi de la gravitation ou la loi du péché, chapitre 7, verset 23. Donc là, j'essaierai, oui, je le dis dans cette partie-là et aussi un peu dans l'autre, j'essaierai d'axer mes citations surtout sur l'épître aux Romains. Alors parfois, nous irons un petit peu à droite et à gauche dans d'autres lettres, dans d'autres textes bibliques, mais d'abord et avant tout de centrer mon propos sur l'épître aux Romains, puisque c'est ce que nous étudions ces jours-ci. Le deuxième sens du mot loi, c'est l'expression d'une volonté mise en application par une autorité compétente sous menace de sanctions. Par exemple, la loi romaine dont il est question au chapitre 7, verset 2. Nous avons aussi, derrière le mot loi, le sens d'exigence morale imposée à l'homme par sa conscience. Quand Paul parle en 2,14 des nations qui n'ont point de loi, qui font naturellement les choses de la loi, n'ayant pas de loi, elles sont loi à elles-mêmes. Le quatrième sens, c'est peut-être le plus évident, c'est l'ensemble des règles et des instructions données par Dieu à Moïse lors du séjour du peuple au désert, c'est ce qu'on appelle la loi de Moïse. Et par exemple, c'est typiquement ce que nous avons au chapitre 10, désolé là aussi, il y a une typo, chapitre 10, verset 5. Moïse écrit à propos de la justice qui vient de la loi. Voilà, il s'agit bien de la loi de Moïse. Et puis par métonymie, le terme loi est parfois employé pour l'ensemble des livres de l'Ancien Testament qui contiennent la loi, qui est au début, donc on prend le tout, le début pour signifier le tout. Le Pentateuque, hein, vous qui voulez être sous la loi, n'écoutez-vous pas la loi. Et puis Paul va citer un autre texte qui n'est pas un texte de loi, qui est l'histoire d'Agar et de Sarah. Et puis l'ensemble de l'Ancien Testament, comme en 1 Corinthiens 14, verset 21, il est écrit dans la loi, citation d'Ésaïe 28. Alors, comme souvent, quand on se retrouve devant une polysémie, eh bien, il faut à la fois distinguer sans dissocier. Et il y a des liens entre ces cinq sens. Pourquoi? Parce que l'auteur de la nature est également le donateur de la loi. On trouve cette unité au psaume 19. Et puis parfois, il est malaisé de savoir quelle définition mettre derrière l'emploi du mot loi par Paul dans un verset précis. Il me semble en conclusion que Paul a conscience d'un vaste concept de loi divine dont les définitions plus restreintes sont issues et tirent leur signification. La loi correspond à la nature de Dieu. Et cette loi morale s'exprime de façon imparfaite dans la conscience humaine, s'exprime aussi de façon plus explicite dans la loi de Sinaï, mais vous aurez remarqué que j'ai mis un jaune plus pâle. Pourquoi? Parce que, à cause de la dureté du cœur de l'homme, eh bien, la loi de Sinaï n'est pas le reflet 100% de la volonté initiale de la loi morale de Dieu. Le texte sur le divorce en fait partie, puisque la loi morale de Dieu, ce n'est pas de divorce, pour prendre un exemple parmi d'autres. Donc, on a le domaine de ce qui est éternel, la nature de Dieu et la loi morale de Dieu, qui a sa traduction dans le temporel, la loi de la conscience et la loi du Sinaï. La question se pose donc, la loi de Moïse est-elle bonne ou mauvaise? Donc, ce qui est frappant, c'est de voir que nous avons les deux. Les deux. Puisque dans cette même lettre aux Romains, Paul va développer une vision positive de la loi. Quand il dit, par exemple, au chapitre 7, verset 12, la loi donc est sainte et le commandement est saint, est juste et bon. Il va même dire au verset 14 que la loi est spirituelle. Et puis au chapitre 13 et au verset 10, quand il dit l'amour donc est la somme ou le culmination ou le summum, on pourrait dire plutôt de la loi, eh bien bah, la loi c'est une loi d'amour qui est basée sur l'amour. Donc c'est vraiment une vision très très positive que Paul développe ici. Mais en même temps, il développe aussi une vision beaucoup plus négative quand il dit que la loi condamne. Chapitre 4, verset 15, la loi produit la colère. La loi est incapable. Chapitre 8, verset 3, chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Et la loi augmente le péché. C'est ce qu'il dit au chapitre 5, verset 20. La loi est intervenue afin que la faute abonde. Ah, donc la loi de Moïse, elle est à la fois bonne ou mauvaise? Ah, mais oui, c'est parce que, en fait, ce n'est pas la loi forcément en tant que telle, c'est le matériau sur lequel elle s'applique. Donc on voit bien que la loi a un rôle positif général qui est celui de limiter le mal, d'où des lois imparfaites, parfois éloignées de la pensée profonde de Dieu dans toutes les civilisations. Et c'est pour cela que Paul au chapitre 13, eh bien, va recommander l'obéissance aux autorités, aux magistrats qui exécutent la loi. Parce qu'il y a une conscience universelle d'une loi morale transcendante et de sa nécessité. L'anarchie, c'est l'horreur. C'est bien pire qu'un régime de lois pas forcément totalement terribles. Ce qu'on peut dire, c'est que quand on prend tout ce qui a été produit par l'homme tout au cours de son histoire en tant que système législatif, la loi de Moïse en est un cas particulier qui en est la plus pure expression, même si elle n'est pas 100% Genevieve. La loi a un rôle aussi particulier, c'est de démontrer que l'incrédule est pécheur. La loi lui fait connaître le péché sous son aspect de transgression. Paul dit, chapitre 3, verset 20, par la loi et la connaissance du péché. Et au chapitre 7, mais je n'aurais pas connu le péché si ce n'avait été par la loi, car je n'aurais pas eu conscience de la convoitise si la loi n'avait dit, tu ne convoiteras point. Donc la loi démasque l'hypocrisie de mon cœur et me montre quelles sont les vraies exigences d'un Dieu saint qui est le péché. Et c'est bien l'interpellation de Paul au chapitre 2, verset 23. Toi qui te glorifies en la loi, déshonores-tu Dieu par la transgression de la loi? Et donc, pour les Juifs qui étaient sous la loi a un rôle négatif tout particulier, puisque les païens ne sont pas vus comme Paul, comme étant sous la loi. Il dit au chapitre 2, tous ceux qui ont péché sans loi périront aussi sans loi. Ceux qui ont péché sous la loi seront jugés par la loi. Plus de révélations. Plus de responsabilité, plus de condamnation si on n'est pas cohérent avec la révélation et la responsabilité qui nous ont été données. Et donc, être sous la loi, finalement, pour Paul, c'est être coupable. Nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit coupable devant Dieu. Donc, voilà, me semble-t-il, ce rôle de la loi. Un rôle positif général, un peu un rôle positif négatif, parce que montrer qu'on est pécheur, c'est pas si positif que ça. Bon. Et puis un rôle particulièrement négatif pour la loi qui les condamne, puisque ceux qui sont sous la loi et même s'en glorifient, qui sont très fiers de l'avoir, eh bien, n'arrivent pas à la respecter et donc sont d'autant plus coupables. Donc la loi est incapable. C'est vraiment ce que démontre beaucoup cette lettre, me semble-t-il, pour donner la vie. Théoriquement, c'était possible, d'où notre chapitre 10, verset 5. J'en ai parlé un petit peu, mais le syllogisme est le suivant. La première prémisse, c'est que la loi donne la vie, parce qu'elle est éternelle, en tout cas elle est de durée, à qui l'observe parfaitement. La prémisse secondaire, c'est qu'aucun homme ne peut obéir tout le temps à toute loi. La conclusion, c'est que la loi cause la mort. La loi n'a jamais créé le type de personne qui puisse remplir les exigences que Dieu avait. La loi était rendu sans force par la chair. Donc la loi est incapable de donner la vie. La loi est incapable de justifier le croyant devant Dieu. La justice du croyant n'est pas basée sur la loi. Nulle chair ne sera justifiée devant lui par des œuvres de loi. Donc l'œuvre de Christ met fin à l'exigence de la loi pour le croyant, d'où notre fameux verset 4 du chapitre 10. Donc on voit que la loi est incapable de nous sauver, mais, et ça c'est parfois un problème, c'est qu'on pourrait dire, ok, je suis d'accord, pour être sauvé, pour avoir la justice de Dieu, c'est sans les œuvres, c'est pas la loi. Mais une fois que je suis sauvé, il faut bien que je respecte la loi quand même, au moins la loi morale. Donc il y a tous ces débats qui durent depuis des siècles là-dessus. Mais la loi est tout aussi incapable de sanctifier le croyant. Je pense que nous en avons tous fait l'expérience. On se fait une liste de bonnes résolutions, et puis pouf, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Parce que le croyant n'est plus sous la loi, elle a été définitivement mise à mort pour lui, il est en Christ, il est passé d'un régime à l'autre. Et c'est pour cela que Christ est la fin de la loi. C'est fini, ça s'arrête. Fini. On est passé à autre chose. Vous n'êtes pas sous la loi. Mais vous êtes sous la grâce. Vous êtes en Christ. Mais ce qui se passe, c'est que la vie nouvelle du croyant en Christ est maintenant dirigée par le Saint-Esprit, que Dieu a fait habiter en lui, et non par des commandements légaux. Et par l'Esprit qui est en lui, eh bien, finalement, le chrétien va accomplir la loi morale. Et c'est la beauté de ce beau verset du chapitre 8 de la lettre aux Romains, verset 4, la justice requise par la loi est accompli en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc finalement, d'un point de vue extérieur, parfois le chrétien légaliste et le chrétien sérieux, qui marche dirigé par l'esprit, ils se comportent à peu près de la même manière, sauf que le ressort intérieur est très différent. Et puis le premier et le second vont faillir à plusieurs égards, ça c'est clair, mais la dynamique de vie est présente dans le second, tandis que dans le premier, c'est une dynamique de mort, de peur de transgresser, de pas arriver à ça, etc. Et donc, c'est cette dynamique de vie nouvelle que vous aviez sans doute vue en étudiant le chapitre 8 lors de l'année dernière, eh bien, qui ouvre finalement aux croyants cette vie nouvelle dans l'esprit dans laquelle nous sommes appelés à marcher. Donc, voilà, me semble-t-il, quelques éléments sur ce sujet de la loi pour le croyant telle que nous le trouvons dans la lettre de Paul aux Romains. Nous en sommes maintenant au second sujet thématique que je voulais évoquer, souveraineté divine et responsabilité humaine. Ah, alors là, nous avons la conflagration, oh, pardon, les animations n'ont pas bien marché, la conflagration d'affirmations apparemment contradictoires. Je reprends un verset que nous avions vu lundi dernier. Dieu fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Chapitre 10, verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment mettre l'un avec l'autre? Et c'est pour cela que je me suis refusé de traiter ce sujet lors de l'étude du chapitre 9, parce qu'il faut attendre le chapitre 10 pour voir l'ensemble du sujet. Et on ne peut pas se contenter que d'un morceau des deux. Voilà. Et c'est bien important d'avoir ces deux pans, parce que si on ne considère que le chapitre 9, on aura une vision biaisée de la chose. On ne regardera que l'aspect bleu et pas du tout l'aspect jaune. Alors, que nous affirme l'Écriture? Elle nous affirme la souveraineté divine dans le salut. Et Dieu est souverain dans le choix éternel qu'il fait des croyants. L'abondance des citations sur l'élection-choix et l'importance du thème sont présentes dans tellement de textes que c'est difficile d'y échapper. Alors, Jésus a choisi les siens. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi les 12? Là, bien sûr, on peut dire effectivement, c'est Dieu est souverain, Jésus était souverain dans le choix qu'il fait des disciples, qu'il appelle auprès de lui les 12, donc ça c'est bien. Mais Dieu a aussi choisi les saints. En lui, il nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui en amour. Là, il ne s'agit plus des seulement 12, mais il s'agit de tous les croyants de tous les temps. Dieu a choisi conformément à sa préscience, à vous qui avez été choisis conformément à la préscience de Dieu le Père et conduit à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissant et d'être purifié par le sang de Jésus-Christ, dit Pierre au début de sa lettre. Dieu charge des serviteurs pour amener à lui ce qu'il a déjà choisi. Paul écrit à Tite, j'ai été chargé d'amener ce que Dieu a choisi à la foi et à la connaissance de la vérité qui est conforme à la piété, afin qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle. Le Dieu qui ne ment pas l'avait promise avant tous les temps et au moment voulu. Il a révélé sa parole par la prédication qui m'a été confiée sur ordre de Dieu notre Sauveur. Donc là, il est bien question de ceux qui ont été choisis. Et pas seulement le fait que Paul a été choisi pour être l'apôtre des nations, ce qui est vrai aussi, mais ça va au-delà. Et en Actes 13, 48, en entendant cela, les non-juifs se réjouissaient, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Donc, un certain nombre de textes là-dessus, on pourrait en trouver d'autres. Donc, il y a une volonté divine dans le salut. Mais cette volonté, elle n'est pas limitée quelque part aux seuls élus. Ça, du coup, c'est un peu plus compliqué à comprendre. Mais oui, reprenons un texte de l'Ancien Testament parmi d'autres, un très beau texte que nous trouvons au centre des chapitres 12 à 24 du prophète Ézéchiel. Est-ce que je prends plaisir à voir le méchant mourir, déclare le Seigneur l'Éternel? N'est-ce pas plutôt à le voir changer de conduite et vivre? En effet, je ne prends pas plaisir à voir mourir quelqu'un, déclare le Seigneur l'Éternel. Changez donc d'attitude et vivez. Et puis nous avons ces versets pour tous les hommes, 1 Timothée 2, versets 3 et 4, notre Dieu, notre Sauveur, qui désire que tous les humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors certains s'en tirent par une pirouette en disant, oui, mais c'est toutes les catégories d'humains. C'est un peu, c'est pas directement ce que montre le texte. Alors c'est vrai que Dieu désire qu'il y ait à la fois les juifs et les non-juifs, les esclaves et les hommes libres, mais le sens direct du verset, me semble-t-il, est plus directement à prendre comme Dieu désire que tous les êtres humains. Et Tite 2, on a vu Tite 1 sous l'autre facette, mais là on voit Tite 2, la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes, elle n'est pas simplement apparue aux seuls élus. Et Pierre, qui parlait de ses élus, eh bien, dans sa seconde lettre, dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » Donc, il y a cette volonté réceptive de Dieu dans le salut qui offre son salut à tous et qui l'ouvre à tous sans exception, d'où tous les quiconques, Jean 3,16 bien entendu, mais aussi notre fameux « Quiconque invoquera le nom du Seigneur » sera sauvé. Donc il y a bien ces deux aspects, cette souveraineté de Dieu dans le salut et cette volonté divine dans le salut que tous soient sauvés. Et qui s'allie avec la responsabilité humaine dans le salut. Et donc nous avons de nombreux textes qui insistent sur la responsabilité de l'être humain. Et on voit que la volonté humaine peut s'opposer à la volonté divine. Jésus, à la fin d'un plaidoyer très triste sur lequel il est obligé de prononcer des malheurs sur les scribes et les pharisiens, conclut à propos des gens de Jérusalem, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Donc on voit bien qu'il y avait cette volonté du Seigneur, mais que, elle était contrecarrée par, la volonté de ceux qui ne voulaient pas se laisser rassembler et chérir par le Seigneur. Et puis, le dernier verset de notre lecture de ce soir nous démontre que l'offre divine peut rencontrer le refus humain. Constamment, j'ai tendu les mains vers un peuple désobéissant et contestataire. Et on peut voir en acte 2, 41 que l'être humain peut décider d'accepter la parole du salut. Il peut refuser, mais il peut décider d'accepter. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. L'auteur Luc du livre des Actes indique bien que c'est ceux qui ont accepté la parole, qui désormais font partie de cette troupe des élus. L'être humain incrédule sera condamné, lui, du fait de ses œuvres, parce qu'il est responsable de ses œuvres. En raison de sa révolte contre la vérité, et là nous avons ce verset de chapitre 2, verset 8 de Romains, il réserve son indignation et sa colère à ceux qui, par esprit de révolte, rejettent la vérité et obéissent à l'injustice. Et en raison de ses actes qui conduisent à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Apocalypse 20, verset 12, nous dit que les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Donc, nous avons dans dans ces textes, me semble-t-il, la démonstration assez évidente que l'être humain est une créature qui est pleinement responsable et qui peut soit refuser, soit accepter la parole du salut, et s'il la refuse, eh bien il sera condamné du fait de ses œuvres. Et donc, nous avons à rejeter, me semble-t-il, avec force, ce qu'on a appelé la double prédestination, c'est-à-dire que Dieu aurait à la fois élu certains au salut et élu d'autres à la réprobation éternelle. Et la parole est soigneuse, nous l'avions déjà indiqué lundi dernier par rapport à notre étude du chapitre 9, la parole est soigneuse pour ne pas faire de symétrie, mais montrer qu'il y a une asymétrie fondamentale entre le salut et la perdition. Me semble-t-il, il n'est jamais dit que Dieu destine à la perdition. Et donc, je vous ai mis un petit tableau, hein. Alors, quand il s'agit du salut, c'est relativement facile à comprendre, mais l'élection, c'est le côté de la souveraineté divine, la réprobation est liée à la responsabilité humaine, l'élection, c'est le sort particulier de certains, mais la réprobation, ce serait le sort a priori normal et juste de tout être humain, parce que nous sommes tous, et c'est le sens de Romains 1, 18 à 3, verset 20, nous sommes tous révoltés, personne n'atteint la gloire de Dieu. L'élection ressort de la volonté décrétive de Dieu, de son décret éternel, tandis que la réprobation est la conséquence de l'opposition à la volonté préceptive de Dieu. Ce Dieu qui donne comme précepte, comme recommandation, comme ordre, on peut presque dire. Dieu ordonne, acte 17, à tous qu'ils soient sauvés et qu'ils se tournent vers l'Évangile. Et si nous sommes élus, c'est par la seule grâce de Dieu. Par contre, si nous sommes réprouvés, ceux qui sont réprouvés le seront en conséquence de leurs actes. Et l'élection est la conséquence de l'amour actif de Dieu, et la réprobation n'est pas ce que Dieu désire. Nous l'avons vu de façon extrêmement claire avec Ézéchiel 18, entre autres. Et donc, je rappelle ces deux versets qui étaient en pendant dans notre chapitre 9, des ustensiles de miséricorde que Dieu a préparés d'avance pour la gloire, c'est-à-dire nous qu'il a appelés, et par contre, le verset précédent, des ustensiles de colère, tout prêts, qui se sont préparés eux-mêmes pour la perdition, et que Dieu, dans sa grâce, a pourtant supporté avec une grande patience, mais qui ont refusé l'offre de sa grâce. Alors, par rapport à ce sujet difficile, il est bien entendu toujours délicat d'essayer de donner un peu une conclusion, hein, ça c'est toujours délicat, mais il me semble que ce qu'il faut accepter, c'est qu'il y a des textes nombreux qui mettent l'accent et sur la souveraineté divine et sur la responsabilité humaine. Il me semble aussi qu'il faut accepter d'être humble et qu'une conciliation logique humainement parfaitement satisfaisante est illusoire. Alors, suivant notre penchant spontané, nous irons peut-être d'un côté, peut-être de l'autre, mais il faut renoncer, me semble-t-il, à cette conciliation totalement logique. Dieu a voulu laisser ces deux aspects en tension, intentionnellement, mystérieusement. Et Paul, c'était quand même pas un perdreau de 3 jours, hein, quand il écrit ces textes-là. Et c'était quelqu'un de très logique, c'était quelqu'un qui avait beaucoup réfléchi. Et cet épître aux Romains transpire la maturité de la réflexion de l'apôtre. Et donc, s'il met ces versets-là, c'est bien qu'il a la conviction par l'esprit que ces deux vérités, ces deux aspects coexistent, sont en tension. Et comment conclut-il, chapitre 11, verset 33, aux profondeurs des richesses, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, pas de la connaissance de l'homme. Ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Alors, si Paul pouvait dire cela, à combien plus forte raison nous? Mais nous avons aussi accepté que l'action missionnaire est précisément le moyen choisi par le Dieu souverain pour amener au salut les élus. Et c'est pour cela que nous avons ce très bel enchaînement dans notre chapitre de ce soir entre le verset 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et le verset 14, comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas mis leur foi? Et puis, etc., etc., comment proclameront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Oui. Et donc, si nous avons accepté ces éléments-là, je dirais de façon un peu conceptuelle dans notre esprit, nous avons aussi à vivre ce sujet est si important et si compliqué et aussi mystérieux, hein, comme le dit Paul en chapitre 11, verset 33, nous avons à le vivre aussi au quotidien, d'abord en étant émerveillés devant la vision de la souveraineté de Dieu. C'est quand même magnifique d'avoir accès à un dieu qui n'est pas limité comme l'étaient les dieux de l'Olympe, ce Zeus qui devait composer avec ses frères, ses neveux ou ses femmes adultères. Nous avons un dieu qui est absolument souverain. Mais nous avons aussi à être motivés pour assumer notre pleine responsabilité humaine et à la fois à prier Dieu pour le salut de X et prêcher le salut de X. Je prends cette phrase de Tim Keller que j'ai relevée, que j'ai trouvée intéressante. Chaque humain est responsable de la façon dont il traite la parole du Christ. Chaque chrétien est responsable de la façon dont il communique la parole du Christ. Et donc, nous pouvons à la fois prier Dieu pour le salut de X et prêcher le salut à X. Les deux vont de pair. Les deux sont absolument cohérents. Alors, peut-être pour illustrer, certains, alors oui, les ultra-calvinistes diront, ah ben non, mais je ne peux pas prêcher parce que de toute façon, si Dieu les a élus, forcément, ils vont être sauvés. Mais oui, mais le moyen dont Dieu veut qu'ils parviennent au salut, c'est justement de prêcher l'évangile à tous les hommes et de prier Dieu pour le salut, les saluts de tous les hommes. Et d'ailleurs, il faut bien voir que c'est très intéressant d'un point de vue historique que l'essor des missions chrétiennes s'est fait en grande partie quand il y a eu... Je dirais, la balance entre l'ultra-calvinisme a été un petit peu rétablie, alors peut-être un peu trop du côté arminianiste, mais en tout cas, ça a été un essor magnifique pour quand la responsabilité humaine a été davantage mise en exergue, à juste titre. Et donc, en conclusion, bon, on pourrait prendre des images différentes. Là, je vous en propose deux. Il y a l'image de la pièce, hein, avec les deux côtés de la pièce, c'est intéressant. Moi, j'aime bien l'image du cylindre. Pourquoi? Parce que finalement, Dieu y voit en trois dimensions. Et nous, on voit en deux dimensions. On voit le côté de la responsabilité de l'homme, là, on tourne autour du cylindre, ou on voit au-dessus le sujet de la souveraineté de Dieu. Mais finalement, il n'y a que le Dieu que Paul reconnaît au chapitre 11, verset 33 dans sa doxologie qui voit en 3D. Il faut accepter que nous, on n'est pas Dieu, mais que notre esprit reste limité, que ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Et quelle prétention, je trouve, intellectuelle que de vouloir résoudre cette tension que Dieu laisse volontairement là. Et puis, je ne sais pas si certains sont allés visiter le musée des arts et métiers à Paris, magnifique musée. Et dans ce musée, vous avez des rails parce que grosse pièce était amenée d'une pièce à l'autre quand ça servait pour les cours à l'époque. Et donc, il y a deux rails. Mais ce que j'ai toujours trouvé intéressant, c'est que ces deux rails sont exactement parallèles, donc la souveraineté divine et la responsabilité de l'homme. Mais parce qu'il y avait, ça tournait dans un sens et donc les pièces lourdes, il fallait un rail un peu plus important. Il y a quand même une très légère asymétrie. Dieu restera toujours premier et c'est vraiment ce que je crois du fond de mon cœur. Je vous propose maintenant, avant de terminer, de passer à trois applications pour la portée actuelle du chapitre 10. Tout d'abord, le zèle mal orienté. Paul disait au chapitre 10, verset 2, je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais non pas selon la connaissance. Et les religieux, les personnes religieuses, peuvent avoir du zèle, beaucoup de zèle. Les juifs, les musulmans, les chrétiens aussi, et cela même pour le vrai Dieu. Mais c'est nécessairement à allier à la vraie connaissance, non pas selon la connaissance. C'est pas simplement l'étude des textes. Ça, vous avez plein de yeshivas à Jérusalem, qui sont pleins de juifs ultra-orthodoxes, qui passent toute leur vie à étudier les textes, mais il n'y a pas cette connaissance personnelle. Le seul vrai Dieu est de celui qui l'a envoyé Jésus-Christ. Et donc, le zèle sans la connaissance, ça peut mener au fanatisme, ça peut même mener au terrorisme. Et ce zèle, en fait, reflète un aveuglement. Je suis quand même très frappé, j'en ai dit un mot déjà la semaine dernière, de voir que des exactions terribles sont opérées ces jours-ci par un gouvernement qui s'appuie en particulier sur des partis ultra-religieux et qui ont un zèle fanatique qui ne tient pas compte des recommandations basiques de la loi d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même et d'aimer l'étranger. Et Paul peut dire en Galates 4, verset 17, le zèle que ces gens manifestent pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Bien souvent, le zèle, c'est un zèle pour attirer vers soi. Sous prétexte de servir Dieu, finalement, on veut On veut attirer des disciples après soi et on veut se faire un nom, être quelqu'un. Donc, contrairement à ce qu'on entend parfois, ben, il est sincère, il peut croire ce qu'il veut. Non, la sincérité ne suffit pas et le zèle peut être mal orienté. Et je suis frappé de lire en Acte 21, quand Paul monte à Jérusalem, avant l'épisode douloureux pour lui, que les chrétiens d'origine juive à Jérusalem dirent à Paul, tu vois frère combien il y a de milliers de juifs qui ont cru. Super, ils ont cru à l'évangile. Et ils sont tous zélés pour la loi. J'ai toujours été gêné en lisant cette expression. J'aurais bien aimé qu'ils puissent dire ils étaient zélés pour l'évangile, ou ils étaient zélés pour Jésus-Christ. Ils étaient zélés encore pour la loi. Ah, c'est difficile de se détacher du fait que finalement notre christianisme évolue en religion et en religiosité et qu'on estime que c'est très important de remplir cette liste de critères, d'interdictions et que finalement c'est comme ça que Dieu sera content de nous. Mais non, ça, c'est un zèle particulièrement mal orienté. Et alors je voudrais faire deux avertissements. C'est contre le fait d'avoir un zèle brouillon, voire sectaire. Et Paul dit, il est beau d'avoir constamment du zèle, mais pour ce qui est bien. Donc, dans nos églises, quand il s'agit par exemple de prendre quelqu'un pour un service donné, c'est bien de repérer ceux qui sont zélés, mais si c'est un zèle qui n'est pas selon la connaissance, qui n'a pas la maturité suffisante, eh bien, parfois, cela peut causer plus de dégâts que de bien. A contrario, eh bien, c'est peut-être ce qui nous guette davantage, hein, je ne sais pas, mais c'est manquer de zèle et être tiède. Apocalypse 3, verset 19, à l'église de la Odyssée, qui était ni froide ni bouillante, l'eau tiède de la Odyssée, eh bien, le Seigneur dit de façon très ferme, aie donc du zèle et repens-toi. Et Paul dit que notre Seigneur s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour les bonnes œuvres. Donc nous ne sommes pas sauvés par les bonnes œuvres, mais nous sommes sauvés pour les belles œuvres qui sont préparées d'avance et dans lesquelles nous avons besoin d'être zélés. Donc quand Dieu place une bonne œuvre devant nous, soyons zélés pour l'accomplir. Deuxième application, reconnaître publiquement sa foi. Si avec ta bouche tu reconnais publiquement en Jésus le Seigneur, et si avec ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Oh là! Ça, c'est un verset qui peut peut-être en inquiéter certains. La reconnaissance publique de la foi est-elle nécessaire au salut? Alors, il ne me semble pas, car sinon on rajouterait une œuvre. Et Douglas Moo, dans son commentaire, dit rien dans ce que Paul dit ailleurs dans ses lettres ne suggère que la profession orale soit requise pour être sauvé. Croire dans son cœur est tout ce qui est nécessaire pour faire rentrer quelqu'un dans le royaume de Dieu. Donc le salut ne requiert aucune œuvre pour être sauvé. Il n'y a pas besoin de professer publiquement quelques mots magiques, etc. Et donc là, on comprend que Paul s'appuie sur cette situation de Deutéronome 30, qui faisait allusion à la bouche et au cœur, pour la proximité de la parole, et il reprend la même phraséologie. Mais vous me direz, attends, je me rappelle quand même une parole de Jésus qui disait en Matthieu 10, 32-33, et puis on a des parallèles dans les synoptiques, toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père. Si quelqu'un me renie devant les humains, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Donc nous voyons qu'il y a un équilibre à maintenir. D'un côté, il est parlé de personnes qui étaient chrétiennes en secret. De notre côté, quand l'occasion se présente et que on renie le Seigneur, la question peut se poser sérieusement, est-ce que vraiment on l'a accepté? Et donc, il me semble qu'il faut maintenir la solennité de l'avertissement de Jésus en Matthieu 10, 33. Mais ne pas se laisser déstabiliser. S'il y a eu une occasion où on s'est tu, alors qu'il semble bien qu'on aurait dû parler ou que on a caché notre drapeau, etc., eh bien, souvenons-nous de l'exemple encourageant de Pierre. Il a renié 3 fois le Seigneur et dans quelles circonstances, et pourtant il a été pleinement rétabli. Donc, ce n'est pas le péché irrémissible, loin s'en faut. Mais c'est un encouragement pour nous, pour saisir les opportunités. Ceux qui sont credo-baptistes sont heureux de pouvoir profiter des baptêmes pour avoir ce témoignage public de foi. qui est rendue par celui qui souhaite se faire baptiser. Et donc c'est souvent une occasion particulièrement heureuse. Une cérémonie publique peut être aussi l'occasion d'indiquer que ben, finalement, on appartient à Jésus-Christ, que Dieu est notre Père. Voilà, on a cette belle confession devant beaucoup de témoins que Paul rapporte de Timothée. Et puis, ça peut être aussi un témoignage occasionnel qui est saisi pour reconnaître publiquement sa foi. Donc, je ne pense pas que ce soit absolument nécessaire au salut, mais c'est un bon signe quand on n'hésite pas à montrer son drapeau. Parfois, ça peut prendre un peu du temps, hein. Joseph d'Arimathée, pendant un certain temps, il a été disciple en secret, puis un jour, il s'est déclaré, et comment, devant Ponce Pilate en demandant le corps de Jésus. Et dernier point sur l'appel missionnaire. Comment entendraient-ils s'il n'y a personne pour proclamer? Et comment proclameraient-ils s'ils ne sont pas envoyés, ainsi qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles? Depuis quelques décennies, il y a quand même des réticences sur la mission. Et d'ailleurs, des effectifs qui ont plutôt tendance à avoir de la difficulté à se renouveler. Pourquoi? Parce que la mission est vue un peu trop comme trop pour prosélyte. Dans un siècle de relativisme et de tolérance, bah, finalement, il y a peut-être plusieurs voies de salut ou c'est bien si on croit. Donc, alors c'est vrai qu'il faut reconnaître que les siècles passés ont été peut-être marqués par trop d'agressivité dans l'approche missionnaire. Mais c'est important quand même de maintenir l'importance de cet appel. Est-ce que trop colonialiste aussi? Ah, là aussi, parfois on a plaqué la culture nord-américaine ou européenne dans des tribus en apportant l'évangile plus notre culture et en mélangeant les deux, surtout un peu trop. Donc je pense qu'il faut reconnaître les travers du passé et travailler beaucoup sur l'inculturation, sur tout ce qui permet d'avoir un évangile qui soit le vrai évangile, mais adapté au contexte. Est-ce qu'elle est trop exigeante? Ah ben, c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément. Aujourd'hui, le cœur d'un Hudson Taylor ou d'autres qui ont donné jusqu'à leur vie, hein, mais nous avons des habitudes de confort et de sécurité qui peut-être rendent de la mission plus difficile. Mais je pense qu'il est important de réaffirmer la beauté et l'importance de la mission. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, au loin, au près, avec la difficulté de la mission au près, hein, en particulier pour des gens qui s'estiment bien à tous égards. Avec des engagements acceptés comme variables, me semble-t-il aussi, et sous des modalités qui doivent être adaptées à notre situation actuelle. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Joël. Il y a quelques questions qui sont arrivées.
Ah
Donc,
bah oui, voilà.
verset 21. Selon Paul, Israël est devenu un peuple rebelle, contredisant. L'Église a-t-elle remplacé Israël aujourd'hui comme peuple de Dieu? Ou bien Israël reste toujours un peuple de Dieu à part l'Église?
Alors, je pense que ça sera très intéressant d'écouter la présentation qui sera faite du chapitre 11, puisque c'est le cœur même du chapitre 11, que de montrer comment finalement Israël a été mis de côté temporairement, mais pas définitivement, et que finalement, de la même manière qu'aujourd'hui, il y a des sauvés de la part des. Beaucoup de sauvés côté non-juifs et quelques sauvés côté juifs, et eh bien Dieu permettra un retour massif à lui. Ça, ce sera le chapitre 21 qui le traitera.
À la lumière de Marc 2, verset 21, où Jésus parle de la pièce de drap neuf et cousue à un vieil habit, peut-on théologiquement envisager une compatibilité ou une combinaison entre grâce, nouvelle alliance en Christ, et la loi, ancienne alliance donnée par Moïse? Autrement dit, ce passage suggère-t-il la grâce vient compléter la loi ou bien qu'elle inaugure en réalité totalement une nouvelle indépendante?
Alors, je prends le texte de Marc 2,21 auquel il est fait allusion, mais on voit bien que dans la façon dont Jésus tourne les choses, c'est pour dire que finalement, ce n'est pas du tout une bonne idée que de coudre un drap neuf avec un vieil habit. Donc, c'est justement, à mon avis, une illustration, de la même manière que le vin nouveau dans le vieil outre, il dit même la déchirure en devient plus mauvaise. Donc, ce n'est pas du tout une bonne idée. Et plutôt prendre cette illustration que Jésus nous donne comme une preuve que ben, ce sont deux régimes différents et que le régime de la grâce dans laquelle nous sommes inaugure une réalité. Alors, je n'aime pas le totalement nouvelle et indépendante, parce que comme la loi était une préparation, et il y a des éléments dans la loi qui sont intéressants pour la période dans laquelle nous sommes, ou sinon ce serait plus la peine d'étudier le Lévitique. Or, par exemple, l'auteur de l'Épître aux Hébreux prend grand soin de montrer comment, par analogie et contraste, eh bien, on peut tirer beaucoup d'enseignements très riches de ces textes de la loi, mais dans une optique d'une nouvelle alliance qui aujourd'hui est tout à fait nouvelle.
Autre question. Alors, souveraineté de Dieu et responsabilité de l'homme, qu'en est-il de la doctrine de la dérapation totale de l'homme?
Alors là, on aborde un sujet qui effectivement pourrait nous occuper longtemps et qui ressort aussi de ce sujet souveraineté de Dieu, responsabilité de l'homme, mais d'aucun, totale dépravation, d'aucun ont reconnu le premier élément de Tulipe. Mais il me semble quand même que totale dépravation dans le sens où l'homme, par ses efforts, par ses œuvres, ne peut absolument pas accéder au salut. Ça, c'est la démonstration que Paul a faite au début de cette lettre aux Romains. Après, d'aucuns ont compris, à mon avis, en allant un peu trop loin sur ce sujet de la totale dépravation de l'homme, parce que en disant que finalement, l'homme est tellement dépravé que, il faut qu'il soit sauvé avant de répondre au salut. Je caricature un peu, mais c'est un peu ça, presque. Il me semble que là aussi, il y a une tension dans l'écriture qu'il faut garder et qui est aussi incompréhensible, Paul, que ce que j'évoquais, qui ressort même de la même difficile conciliation entre ces deux aspects et que Paul, dont Paul parle dans sa doxologie, chapitre 11, verset 33, c'est que effectivement l'homme est mort dans ses fautes et dans ses péchés, mais de l'autre côté, il est quand même appelé à répondre au salut. Est pleinement responsable pour cela. Donc là aussi, si on insiste trop sur la dépravation totale de l'homme, eh bien on en arrive à finalement plus annoncer le salut, parce que de toute façon, si c'est pas l'esprit qui fait le travail dans les cœurs, l'homme peut rien faire. Alors, il y a quand même un aspect volitif de volonté à mettre en œuvre pour le salut, qui est repentez-vous et croyez en l'évangile, la première parole de Jésus dans son ministère. Donc attention là aussi de ne pas basculer trop d'un côté ou trop de l'autre.
Et ensuite, une précision, ce qui amènera un homme plus que ses œuvres, c'est le fait de ne pas croire. Jean 3, verset 18. Donc, merci Sylvain et Jeanne pour le complément.
Oui, alors juste un point là-dessus, hein, c'est que les Juifs avaient interrogé Jésus en Jean 6, que ferons-nous pour faire les œuvres de Dieu? Et Jésus leur répond, c'est ici l'œuvre de Dieu au singulier que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Donc là aussi, je pense qu'il y a un peu une tension dans l'écriture entre l'œuvre numéro un qui est-ce que je crois ou je ne crois pas en celui que Dieu a envoyé, et puis aussi les œuvres. Et sans doute ce que le pluriel des œuvres dont il est question en Apocalypse 20 induit aussi indirectement derrière, me semble-t-il, le fait que, pour le dire très, très vulgairement, l'enfer sera plus ou moins chaud suivant les œuvres qui auront été commises, et qu'il y en aura celui qui sera battu de plus de coups aussi. Donc il y a à la fois ce singulier et ce pluriel. Très bien.
Je te laisse la main, Antoine. Merci, Joël.
Alors,
Oui.
juste, je signale que j'ai fourni à Claude Henry, qui vous le diffusera aussi, une bibliographie. Donc, si on a peut-être 2 secondes pour que je vous dise quelque chose de la bibliographie, parce que ça peut être intéressant. Voilà. Quelques introductions très simples, hein. Comment Dieu travaille, si vous voulez avoir un aperçu en 32 pages, petite page de l'Épître aux Romains, c'est magnifique. Frédéric Feller aussi, pour des débutants, ça peut être très bien. Warren Wiersbe, soyez juste aussi, c'est très facile d'accès. En français, un commentaire relativement détaillé, presque 400 pages, mais quand même très digeste, c'est celui de Bragg Dixon. C'est sans doute un des meilleurs dont nous disposons. John Stott, dans les chapitres 5 à 8, malheureusement, n'est traduit en français que cette partie-là, c'est remarquable. Et alors, pour ceux qui veulent creuser beaucoup, mais c'est plus aride, vous avez les deux volumes dans la commentaire Edifac de Samuel Benetro sur l'Épître aux Romains. Et alors, pour ceux qui ont le privilège de lire l'anglais, trois livres, trois commentaires remarquables. Donc, celui de John Stott, pas simplement sur les chapitres 5 à 8, mais sur les 16 chapitres de Romains, Bible Speaks Today. Les deux volumes sortis il n'y a pas très longtemps de Timothy Keller sur Romance for You et Douglas Moo qui a écrit un commentaire qui est le commentaire de référence mais qui fait presque 1000 pages un peu immangeable et qui en a fait un pendant dans la collection NIVAC, NIV Application Commentary, qui est beaucoup plus digeste hein, avec des applications et que j'aime aussi beaucoup. Donc voilà. Les richesses en anglais sont supérieures aux richesses en français.
En tout cas, merci énormément, Joël. On a beaucoup apprécié ces deux sessions, lundi dernier et ce lundi. On réalise que c'est un travail très conséquent. On te remercie pour la clarté de ces exposés. Et puis, on va se donner rendez-vous aussi au lundi 19 avec notre orateur suivant, qui nous suit et qui enseigne depuis pas mal d'années. Il s'agit de Gilles Despin, qui a suivi aussi cette session aujourd'hui en tant que participant. Et voilà, donc si vous voulez aussi regarder bien le site, parce que vous retrouvez cette bibliographie, pardon, et puis vous pouvez aussi avoir le canevas qui va être proposé pour le prochain cours. Et sur ce canevas, moi je vous fais une petite recommandation, c'est que vous pouvez aussi directement sur le PowerPoint prendre les notes. Il suffit pour cela d'avoir un lecteur PDF où vous pouvez écrire. J'utilise personnellement Foxit, c'est parce que c'est gratuit. Alors voilà, suivant où vous habitez, c'est quelque chose que vous pouvez faire et c'est peut-être les notes seront plus utilisables et vous avez toute la trame que l'orateur propose et donc qui est consignée sur le site. Voilà, il nous reste à vous transmettre les salutations fraternelles de toute l'équipe Biblos et les remerciements, je pense, de chacun vont encore à Joël et on se retrouvera très volontiers une prochaine fois. Et puis, je pense que on peut prier, je le dis comme ça, chacun peut le faire aussi, pour le salut de tous les Juifs qui restent à être sauvés, pour le salut des gens autour de nous. Certains ont une connaissance de la Bible très, très, très partielle ou erronée ou parfois très lacunaire et donc cela nous motive aussi à être zélés pour annoncer cet évangile dont nous avons parlé ce soir. Le salut est pour tous et nous avons affaire à un Dieu juste. Alors bonne fin de soirée, merci beaucoup, au revoir,
Au
merci.
revoir. Merci.